Shem, la lettre 7, premier cours sur la lettre 7, page 221, Igaret HaKodesh. Alors, comme beaucoup de lettres dans Igaret, très souvent centrées sur la Tzedaka, d'accord, ça vous avez dû remarquer, 2 secondes, excusez-moi, voilà. Ouais. Alors, vous avez remarqué qu'ils sont très centrés sur la Tzedaka, mais à chaque fois c'est un autre thème. Donc on a eu Baruch HaShem l'occasion d'aborder beaucoup de thèmes autour de Igaret HaKodesh. On a eu l'occasion d'aborder les sphères, les machloket batil et betchamay, la tzedaka, le roi David, enfin beaucoup de notions très, très profondes et très intéressantes. Alors là, dans ce pérec-là, on va étudier une notion intéressante. Et surtout, je pense que ça a un rapport avec l'actualité. C'est, d'un côté dans la Torah, on voit que la Torah encourage beaucoup ce qu'on appellerait aujourd'hui la globalisation. Ça veut dire mettre tout le monde dans le même paquet. D'accord, la même règle pour tout le monde. Et d'un autre côté, on voit que dans d'autres endroits, la Torah encourage beaucoup, au contraire, l'individualité, l'aspect individuel. Alors, on va développer ça, bien sûr. Et ça, vous voyez, ça, c'est des grandes questions.
Ce qu'on appelle le holisme et l'individualisme.
Voilà. Donc, ça, c'est des grandes questions. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est toujours la question, est-ce qu'on s'occupe des individuels, d'accord, ou est-ce qu'on s'occupe de manière globale, de manière générale. Et donc, ça, encore une fois, ça ira dans la même direction de ce qu'on a fait dans les semaines précédentes quand on parle d'éducation, quand on parle de toutes ces choses-là. Qu'en vérité, c'est les mêmes dilemmes qui nous reviennent toujours. Est-ce qu'on se focalise sur l'aspect général ou est-ce qu'on se focalise sur l'aspect individuel? Alors, l'originalité de cette lettre, c'est qu'en vérité, la Tour Hazaken va nous montrer que la réponse se trouve pas plus loin que dans notre tefila. La tefila qu'on fait tous les jours. Alors, c'est vrai que c'est une partie que pas tout le monde lit. C'est une partie qu'on fait avant O2, donc pas tout le monde le lit. En général, les gens, ils arrivent à la bourre, donc ils zappent. Mais en vérité, dans cette partie du début de la tefila, on va montrer comment en vérité il y a des trésors qui sont cachés là-bas.
Dans les Ketoret ou avant?
Avant, juste avant les Ketoret. Mais c'est pas dans tous les livres, hein. Sfarad, Ashkenaz, Rabat, partout, vous verrez toujours ce texte qu'on va lire. Et dans ce texte, on va donner la réponse à cette question. Donc l'individuel par rapport à l'aspect global. Et après, bien sûr, on arrivera à la fin de la lettre, comme d'habitude, on arrivera à la Tzedaka. Parce que vous comprenez que ça va toucher à ça. D'accord. Donc, ce qu'on va développer dans cette lettre, qu'on va développer, je pense, en 2 cours, on va expliquer comment en vérité, Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il nous encourage à développer de manière globale, de manière générale. Et il faut toujours favoriser le klal par rapport au prat. Vous savez, c'est comme, je vous donne un exemple. J'ai lu une lettre, un directeur d'école qui a posé une question au rabbi. Il a dit, il y a des enfants qui sont vraiment turbulents. Qu'est-ce que pense la Torah? À partir de quand on doit les renvoyer? Entends la question, Youssef. Le directeur d'école qui a posé la question au rabbi. À partir de quand on doit le renvoyer? Donc en fait, c'est ça la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est le klal contre le prat. Ça veut dire c'est la généralité, ça veut dire c'est toute l'école, contre le prat, contre un individu. Et donc, c'est très difficile à faire. Le poids entre les deux, de dire qui passe en priorité, comment on fait. D'accord? Des dilemmes comme ça, on en a tous les jours, mais surtout quand on a des positions très importantes. Et le rabbi a répondu à la chose suivante. J'ai lu plusieurs lettres comme ça. Le rabbi a dit, tant que l'enfant ne dérange pas et ne dévergonde pas, entre guillemets, d'autres enfants, il ne faut pas l'envoyer, même s'il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il faut lui donner sa chance en tant que prat, en tant qu'individu à se développer. Et que peut-être 1% que lui va faire, que toi tu crois que c'est 1%, en vérité pour lui c'est 100%, c'est énorme. Mais dès qu'il commence à dévergonder d'autres enfants, là dans ce cas-là, peu importe les notes qu'il a, il faut le renvoyer. Parce que le klal passe avant le prat. Et c'est toujours un dilemme qui est très difficile. Très difficile à résoudre comme dilemme. Qu'est-ce qui passe en priorité entre le klal et le prat? D'accord? Qu'est-ce que vous amenez?
Comme d'hab, des chips.
Azak. Tu sais que le cours de Tania, c'est le seul cours que j'ai pas annulé de la semaine, à part le cours du Shabbat. D'accord, donc j'étais en train de dire que le Shabbat, je vais raconter l'histoire encore. J'étais en train de dire qu'une fois, j'ai lu plusieurs lettres du rabbi dans lesquelles t'as des directeurs qui demandent au rabbi, il y a des enfants qui se comportent pas très bien à l'école, et ils posent la question au rabbi, à partir de quand on a le droit de, de quelque part de virer l'enfant. Parce que pour moi, quand on vire un enfant d'une école, c'est un peu comme un divorce. C'est vrai, c'est comme ça qu'on voit la chose dans la Torah. C'est un peu comme un divorce. C'est-à-dire, à partir de quand tu peux divorcer d'un enfant ? Parce qu'on voit, c'est une question grave. Et le Rabbi a répondu la chose suivante. Il a dit, tant que l'enfant ne dérange pas les autres enfants, tu ne peux pas le renvoyer. Il ne faut pas le renvoyer. Même s'il n'a pas de mauvaises notes. Parce qu'il faut lui donner sa place en tant que prat, en tant qu'individu. Et dès qu'il commence à déranger d'autres enfants, là, même s'il a des très bonnes notes, il faut le renvoyer. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. D'accord ? Justement. C'est le dosage entre le klal et le prat, entre l'individu et entre d'un autre côté, on va dire, l'aspect général. Qui passe en priorité ?
C'est plus dur pour l'homme.
D'accord ? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. D'accord ? En fait, je vais vous donner un exemple très simple. Juste dans une famille. D'un côté, tu as envie de donner de la place à chaque enfant, mais d'un autre côté, tu as envie d'assurer la cohésion et l'équilibre de la famille. D'accord ? Mm-hmm. Donc, le prat, le klal par rapport au prat. Klal, c'est l'aspect général. Prat, c'est le détail. Qui passe en priorité ? Bon. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. La réponse se trouve en vérité dans la tfila. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila ? Dans la tfila, on dit « Ashreinu matov helkin ». Ça vous dit quelque chose ?
Oui. C'est ce qu'on dit là-dessus.
Alors, il y a des chansons sur ça. Hein. Ashreinu, ouais, plein dans tout... Hein. Dans Breslev aussi, une chanson connue sur ça.
Ah bon, ça ?
Ouais.
C'est ce qu'on dit avant le premier schéma.
Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce Ashrenu ? Justement, on dit là-bas la chose suivante, on dit Ashrenu, nous sommes heureux. Matov chelkenu, combien notre part est bonne. Umanaim goraleinu, et combien notre sort est agréable. Qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite ici ? C'est quelque chose que nous, on ne remarque pas vraiment, mais... Mon Razakani dit, moi, ce que je remarque tout de suite, c'est quoi ? C'est qu'on te dit notre part, et après tu dis notre sort. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre une part et un sort ? Je vais donner un exemple. Qu'est-ce que tu as dans la main, David ? Qu'est-ce que tu vas nous distribuer ?
Des pistaches.
Des pistaches.
Et des bretzels.
Alors, imaginons que des bretzels, voilà. Imaginons que David, il va nous distribuer des parts de bretzels à chacun. Ouais. C'est quoi une part ? Une part, c'est forcément, c'est-à-dire que ça va être équitable. C'est-à-dire qu'un enfant va distribuer un peu moins, un adulte un peu plus, et à chacun on va lui distribuer selon ce qu'il a besoin. C'est un peu comme, c'est une part, d'accord ? Mais si je dis que c'est un goral, goral en hébreu ça veut dire quoi ? C'est un tirage au sort. Est-ce que dans un tirage au sort il y a une règle ? Il y a une norme ?
Non.
Il y a une raison ? Non. D'accord ? Et ce qu'on va développer ici, c'est comment Akadosh Baruch Hu, dans la relation qu'il a envers nous, on va retrouver ces deux aspects. L'aspect général et l'aspect individuel. L'aspect général, ça veut dire, c'est l'aspect, comme on va expliquer, l'aspect chelkenu, que chacun doit recevoir sa part, et que chacun doit recevoir sa part, et que plus une personne est grande, et plus il doit avoir une plus grande part. Et après, on aura l'aspect goral, l'aspect tirage au sort. D'accord ? Chelek, goral. Et tous les matins, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu ? On dit à Shrei, nous sommes heureux. Matov chelkenu, combien notre part est belle ? Ça veut dire que déjà, ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, Akadosh Baruch Hu, il a distribué parmi tous les peuples. Il a distribué. Et chaque peuple a pris sa part. Et nous, on se rend compte que la part qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée est une belle part.
Non, on lui réclame notre part.
D'accord ? Non, non. Dans Ashrenu, on dit nous sommes heureux. On remercie Akadosh Baruch Hu.
On est heureux de par rapport à ce qu'il nous a déjà envoyé. On est content de ce qu'on a déjà. Et bon, si on a plus de mérite d'année en année, on peut avoir
alors,
plus.
Alors, deux choses. Numéro un, c'est Chelkenu. C'est quoi Chelkenu ? Ça veut dire, je dis, écoute, Akadosh Baruch Hu, tu sais la vérité, tu as distribué, quand tu as distribué les tâches, quand tu as distribué les rôles, quand tu as distribué les mérites dans le monde, la vérité, tu nous as donné une bonne partie. On te remercie, Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est Chelek. Chelek, ça veut dire, on a partagé, chacun a pris une part. Il y en a qui ont pris une part un peu meilleure que d'autres. Voilà, c'est comme si je prends ces deux bretelles. Il y en a un qui est peut-être un peu mieux cul que l'autre.
Mais pourquoi ? Parce qu'il a mérité mieux ou parce que...
Non. Parce que non. Ou parce qu'il a mérité. Tu as raison, c'est une bonne question que tu poses. Pas forcément parce qu'il a mérité mieux. Mais même si tu dis que c'est pas parce qu'il a mérité... Même si c'est pas parce qu'il a mérité mieux, peut-être c'est parce que c'est lui qui a accepté le produit en premier.
Mais est-ce que dans l'une des deux notions, il y a une notion de mérite ?
Bien sûr. La notion de chélec.
D'accord.
Dans la notion de chélec...
Oui, mais il faut mériter...
Alors, dans la notion de Chélek, ce qu'on va développer justement, dans la notion de Chélek, c'est Akadosh Baruch Hu t'a donné une meilleure partie parce que tu le mérites. Enfin, tu le mérites. Non, mais ça veut dire, Tu sais, on dit celui qui a cru en ton produit en premier, quand je vends un produit, mais c'est un produit qui est nouveau, qui est novateur.
Prime de risque.
D'accord ? Il y a des gens qui vont me faire confiance. Ces gens-là, le jour où ça va marcher, je vais leur rendre ça. On est d'accord ? C'est normal ? Prime de risque, comme tu dis. Okay. Alors, ça, c'est Khelkenu. Mais nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est pas seulement Khelkenu qui nous a donné. C'est pas seulement que tu as donné une bonne part. Et qu'on a été bien lotis. C'est carrément Goralenu. C'est carrément un sort. C'est-à-dire, c'est carrément quelque chose qui dépasse complètement la logique. Pour illustrer ça, je vais vous expliquer un autre endroit dans la Torah, qu'on va développer plus tard d'ailleurs, dans lequel on voit comment, quand il y a eu le partage d'Eretz Israël. Vous savez comment on a partagé la terre d'Eretz Israël ? Ah, attention ! Comment on a partagé la terre d'Eretz Israël ?
En nombre d'habitants.
Eh bien, Rachid explique. Ah, parce que c'est qu'il se base sur le Chumash. C'est quoi le Nes qu'il y a eu ? On a fait les deux méthodes en même temps.
Oui, voilà, c'est ça. On a fait deux
méthodes. Ça veut dire quoi ? Il y a eu Chélek et Goral. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que d'abord, on a eu un Bedin qui s'est rassemblé et qui a fait appel à chaque chef de tribu, qui lui a dit « Explique-moi tes besoins ». Et par rapport aux besoins de chacun, on lui a dit « Bon, ben, la part qui te correspond, a priori, c'est ça. » Vu les ressources naturelles, vu, etc., la position géographique. Après, on a tiré au sort. Et le tirage au sort correspondait à 100% à ce qu'on avait partagé. C'est un miracle.
Comme par hasard.
D'accord ? Ça, c'est extraordinaire.
Ouais, sauf qu'en mathématiques, ça s'appelle un arrangement.
C'est coquin.
Quel intérêt alors, d'avoir fait ça alors ?
Quel intérêt ? Très bonne question. Quel intérêt d'avoir fait ça ?
Pour pas qu'il y ait de jalousie.
Pas du tout. Justement, l'intérêt qu'on va expliquer ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait toujours.
C'est plus légitime de
faire. Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait toujours les deux aspects. L'aspect chélek, l'aspect goral. L'aspect naturel, l'aspect surnaturel. Les deux en même temps. D'accord ? Et c'est un peu la même chose. Dans la relation qu'on a, nous, envers Akadosh Baruch Hu, dans la question qu'on se pose, dans la question qu'on a posée au début du cours, à savoir l'équilibre qu'on doit faire entre le klal et le prat, c'est toujours la même question qu'on se pose. C'est quoi la même question qu'on se pose ? C'est le naturel et le surnaturel.
Depuis la semaine dernière, on se la pose.
Ah ben oui, tu comprends ? Regarde, je te mets une question. Tu as, par exemple, un gosse dans une école, ou bien chez toi à la maison, tu as un gosse qui se comporte mal.
Le Chaim.
D'accord ? T'as un gosse qui se comporte mal. Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Si tu réfléchis de manière naturelle, tu dis, bah, il s'est mal comporté, il faut le punir. Mais si tu réfléchis de manière surnaturelle, tu dis, bon, Dieu va aider. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de faire Chélek et Goral en même temps. Donc ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir l'équilibre entre les deux.
Pourquoi le Goral, c'est du hasard ?
C'est pas du hasard. Le Goral, on expliquera, c'est une très bonne question.
Sinon, j'aimerais que tu m'expliques un verset. Je sais plus comment on dit, mais c'est dans Tehilim. On dit Kiloya Noir Chevel Tarasha.
Al Goral
Sadikim. C'est bizarre parce que normalement, on croirait que justement Goral Sadikim, Tarasha n'aura pas sa part parce qu'il a mérité.
Alors, on va développer.
Et là, tu me dis que c'est du hasard.
Donc, on dit que Aman, puisqu'on rentre dans le mois de Hadar. On rentre dans le mois d'Adar, on dit que Aman, il pile pour ou à Goral. Aman, il a tiré pour. Vous savez que pourim en hébreu, ça vient du mot pour. Pour en hébreu, c'est un sort. Il pile pour ou à Goral. Il a tiré le sort, il a tiré au sort. Bon. Il a tiré au sort, il est tombé sur le 14. Ok, 14, il a dit c'est là que je tue tout le monde. Alors, en Chassidut, on explique, on dit, on pose la question, on dit mais pourquoi Aman, il a tiré au sort ? C'est pas stratège du tout de tirer au sort. Normalement, un fin stratège, il tire pas au sort, il dit ben allez, on sort au pif, allez hop, allez, c'est sorti 15 juin, allez, 15 juin, on attaque. Ça veut rien dire.
L'effet de surprise.
D'accord ? Non, mais normalement, la meilleure option c'est quoi ? C'est de réfléchir, de voir par rapport aux conditions, comment les conditions se prêtent, et par rapport.
Moins propice pour
d'accord
eux,
on voilà.
Sait qu'on a des périodes où
on attaque. Exactement, on sait. Pourquoi il a tiré au sort ? On explique en racine la chose suivante. On dit c'est quoi le tirage au sort ? Le tirage au sort, c'est quand on fait appel au surnaturel. C'est pour ça que quand, par exemple, on va jouer tous ensemble pour aller faire un goral pour aller chez le rabbi, chacun va mettre une certaine somme. Et après, on va tirer au sort. Pourquoi on va tirer au sort ? Parce qu'on dit en vérité, il y a une personne qui doit voyager. Mais nous, on n'est pas capable de définir qui c'est que Kadosh Baruch Hu, il pense que c'est la personne la plus adaptée à voyager. Et naturellement, il n'y a pas de réponse à la question. Parce qu'on a tous donné la même somme. Enfin, en tout cas, naturellement, il n'y a pas de réponse à la question. Comment on va répondre à la question ? On va demander à Dieu de répondre à la question. Vous voyez que finalement, l'idée du plouf-plouf, hein, qu'on faisait plouf-plouf à l'école, selon la Chassidout, l'idée du plouf-plouf est qu'en vérité, dans les choses, dans un goral, en vérité, on va faire appel à Kadosh Baruch Hu, à quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est pour ça que, Aman, ça veut dire que, encore une fois, je vais préciser, à l'école, d'accord ? D'accord ?
Non mais justement, il va pas me laisser comme ça.
Alors, attendez.
C'est trop facile.
À l'école, je me rappelle, à l'école.
C'est naturel. Toute ta vie, tu joues à pilou-face.
Ah oui, à l'école, quand on faisait pilou-face, pourquoi ? C'est parce qu'on dit, bon, écoute, comme on n'arrive pas à se décider, alors on va faire un hasard, et le hasard, bon, ben, tant pis, t'as gagné, tant mieux, c'est un jeu. En Chassidout, on explique qu'en vérité, quand il y a un pour, quand il y a un goral, c'est pas le du hasard. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que c'est toi la personne qui est la plus adaptée à gagner au goral, qui est la personne qui correspond le plus à ça. C'est la raison pour laquelle... Attends. C'est la raison pour laquelle Aman, il a tiré au goral. Parce qu'Aman, il a compris la chose suivante. Aman, il a dit, si je vais attaquer les Juifs rationnellement, je vais perdre. Mais par contre, Aman, il s'est dit, moi, je pense détenir une force qui est plus forte que l'homme, qui est irrationnelle. Et si je vais les attaquer de manière irrationnelle, ils vont craquer. Parce que les Juifs, à cette époque-là, ils se comportaient tous de manière très rationnelle, très diplomate, très citoyen. D'accord ? Citoyen. Un bon citoyen de Suse. Et donc, ce n'étaient pas des gens du tout qui savaient ce que ça veut dire être irrationnel. Et venu à Man, il a dit, ces gens-là, on va les prendre, on va les attaquer de haut. On va leur mettre quelque chose d'irrationnel qu'ils ne pourront pas s'y attendre. C'est pour ça que Mordechai, comment il a répondu à ça ? Et bien, Matt, on n'arrivait pas à contrer ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai ? Mordechai, il a dit au Bnei Israël, il leur a dit, pour contrer l'irrationnel, il faut nous aussi faire d'irrationnel. Il a dit, maintenant, je rassemble tous les enfants, 22 000 enfants, imaginez-vous 22 000 enfants dans la même salle, on ne sort pas d'ici tant que le problème n'est pas arrangé. Il a pris tous les gens, il a rassemblé tous les Juifs de Suse, et il leur a dit, maintenant, vous allez commencer à vous comporter de manière irrationnelle. Faites des choses que jamais vous avez pensé.
On devrait faire pareil pour faire venir Mashiach.
D'accord ? Attends, qu'est-ce qu'il fait ?
Non, on ne fait pas ça.
Bien sûr qu'on fait ça, comme le rabbi nous a toujours
dit. D'accord ? Réunir 22 000 personnes.
Attends ! Il dit comme ça, parce que non, là il y avait un décret. Et donc, il dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit Mordechai ? Mordechai, il a dit Aman ! Il a joué l'irrationnel, il a joué le goral, mais en mal. Moi, je vais jouer aussi l'irrationnel, mais en bien. Ça veut dire qu'en vérité, c'était un combat irrationnel. Voilà pourquoi on parle du goral. D'accord ? Voilà pourquoi on parle du goral, et voilà pourquoi on va même chez les grands tzadikim, c'est connu. Vous savez, aujourd'hui, vous entendez des fois des gens, par exemple, qui ouvrent le Igrot Kodesh. Des choses comme ça. En vérité, c'est une méthode qui existe depuis l'époque du Gaon de Vilna. Il y a un goral qu'on appelle le tirage au sort du Gaon de Vilna. Seulement, bon, il fallait savoir le faire. D'accord ? Alors, c'est quoi le goral du Gaon de Vilna ? C'est quand on voulait poser une question, et qu'on voulait poser une question à Kadosh Baruch Hu, on ouvrait un chumash. Et selon, alors, il y avait des différentes techniques, la première lettre, la dernière lettre, ou la lettre du milieu, enfin, il y avait des techniques, et on estimait qu'au travers le chumash, Kadosh Baruch Hu nous répond. Pourtant, c'est un goral, je veux dire, c'est une page que t'as ouvert au pif, excusez-moi du terme, c'est au pif. Non, il n'y a pas de pif chez nous, il n'y a pas de hasard.
Surtout qu'il y a plus de probabilité que tu ouvres pas sur la première page.
Et oui, c'est bizarre. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas, il n'y a pas de hasard.
Tu peux mal comprendre le message.
D'accord, mais... ah, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire attention. D'accord, c'est pour ça que Mais, j'explique que le concept existe, le concept de goral existe. Donc, avec ça, hein, on a développé un petit peu la notion de chélek et goral. Chélek, c'est une part qui est rationnelle, goral, c'est l'irrationnel. Aman, il a voulu nous attaquer sur l'irrationnel. Mordechai a répondu par l'irrationnel. Et c'est pour ça que le rabbi explique, il dit, on voit que, bon, puisqu'on s'approche de Purim, je dirais encore un petit mot sur Purim, le rabbi dit que quand on analyse finalement l'histoire de Purim, finalement, ça nous a l'air une histoire, on voit pas tellement le miracle. Quand on analyse l'histoire de Purim, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait un parti politique qui voulait nous tuer, comme Le Pen, d'accord ? On a réussi à faire monter au pouvoir, c'est pas rien, c'est la reine. On a réussi à faire monter au pouvoir suprême, on va dire la haute cour, on a réussi à faire monter une reine qui va amadouer le roi. Elle va en parler au roi, et le roi il va calmer l'affaire, il va dire c'est qui ce parti politique qui va vous tuer. Il va exterminer ce parti politique et c'est fini. C'est pas spectaculaire comme ce qu'on a l'habitude. Sortie d'Égypte, Hanouka. D'accord ? Non, mais ça veut dire qu'on a l'habitude, dans les miracles en général, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus spectaculaires.
Ouais, c'est proportionnel par rapport.
Non, regardez. Prenez Hanouka par exemple. Hanouka, on te dit, tu as 5 personnes qui ont gagné une armée.
Hollywood a fait un film quand même.
D'accord ?
Ouais, mais c'est bon. Hollywood.
D'accord ?
Non, mais je te parle.
Alors, tu as 5 personnes qui ont gagné une armée. Tu comprends ?
L'importance du miracle.
Tu me dis Pessah. à Pessah, il y a eu les 10 plaies, il y a eu la sortie d'Égypte. Mais là, Pourim, c'est pas ça, ça a l'air... C'est-à-dire que c'est vrai, quand on raconte l'histoire, on se dit, bon, finalement, c'est une histoire politique. D'accord ? Qu'est-ce qu'on explique en Chassidout ? On dit qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle dans la Megillah, il n'y a pas écrit une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la Megillah, dans la Megillah, les enjeux n'étaient pas rationnels. C'est-à-dire que ça veut dire que ce qui se passait de manière physique, il n'y avait rien de spécial vraiment qui s'est passé. Bon, il y a eu un décret, on a réussi à le faire sauter. En vérité, les vrais enjeux étaient des enjeux irrationnels.
Mais même dans la sortie d'accord. d'Égypte, hein, c'était rationnel et irrationnel.
Non, mais dans, dans la sortie d'Égypte, il y a eu des effets spéciaux.
Ah oui, parce que c'est ce que je t'ai dit, parce que c'est en fonction de l'importance du miracle qu'Hachem voulait accomplir que...
Justement, non. Bah si. Non.
Bah, avant,
vous savez, on dit, regardez, un des jours les plus importants de l'année, c'est quoi ? C'est le jour de Yom Kippour. On l'appelle Yom Kippourim. Il dit le Harizal, je vais voir, c'est le Harizal. Il dit pourquoi on l'appelle Yom Kippourim ? Pour dire que c'est un jour qui est Yom à Kippourim. Comme Pourim. Ça veut dire qu'il est seulement comme Pourim. C'est-à-dire que Pourim, c'est la fête, une fête énorme. On voit dans les écrits même du Harizal et de la Kabbalah que Pourim, c'est une fête qui est énorme. Pourtant, quand on lit Pourim, bon, je veux dire, c'est une fête... On voit pas le miracle. Parce que justement, ce qu'on t'explique, c'est qu'on te dit que tout l'aspect de Pourim, c'est un aspect irrationnel, c'est un aspect goral. Bon. Maintenant qu'on a ouvert cette parenthèse, on va maintenant rentrer dans les mots. On n'a même pas commencé là. Alors, non, mais c'est important de se rentrer dans le... Surtout au Fabringen de Shabbat, on a parlé de la Simcha de Hadar. Il faut se mettre dans le bain. Et comme on a dit Fabringen Shabbat, on a dit que si un juif, il dit, moi je suis pas dans l'ambiance, alors il faut se mettre dans l'ambiance. Il faut mettre des vêtements qui vont avec, il faut écouter des musiques qui vont avec, il faut se mettre dans l'ambiance. Il y a pas de, hein, il peut pas arriver une situation qu'un juif il dit j'arrive au mois de Hadar et je suis pas Vessimra. S'il n'est pas Vessimra, il doit simuler pour devenir Vessimra.
Il doit simuler carrément en faisant semblant.
Simuler. Comme dans les pistes de danse. Alors, Ashrenu Matav Chalkenu.
Hein? On va simuler alors.
Parce qu'on commence par simuler. Bon, je ne veux pas répéter Fabringen. Tu étais David Fabringen.
Oui.
Hein? Alors.
C'est loin déjà.
Ça fait deux jours.
Bah, c'est loin derrière. Hein. Ça va être...
Alors, on y va.
Mais bon.
Ashrei, nous matofrelke, nous mana, im gorali, nous mayap.
Il y avait de l'alcool sur ce moment.
Ashrei, nous matofrelke, nous mana, im gorali, nous.
Pas plus qu'aujourd'hui.
Nous sommes heureux. Matof relke nous, combien notre part est belle, Ouman Naïm Gorale nous, et combien notre sort Naïm est agréable. Donc on voit ici les deux termes, Chelek et Goral. Chelek c'est la part, Goral c'est le sort. On a aussi encore un autre verset, dans Tehilim, le Tehilim 16, Hachem Menat Chelki Vekosi. Un autre pasouk qui dit. Hachem menat chelki vekosi, que Hachem est donc ma part, la part qui m'a été attribuée, vegomer, etc. Qu'est-ce qui est écrit juste après ? Ata tomir gorali, c'est toi qui vas me donner gorali, mon sort. Donc encore une fois, on a commencé par chelki, le chelek, la part, c'est-à-dire ce qui est logique, et on termine par gorali. Ça c'est dans le psaume 16, Tetzaïm. Encore un autre pasouk, d'accord ? Chavalim nafluli. Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? On dit Chavalim Nafluli. Alors Chavalim, ça veut dire également comme explique là-bas le Mefarshim, ça veut dire le tirage au sort. Donc dans le même Télim 16. C'est-à-dire qu'on voit que dans la Torah nous met souvent une genre de conflit entre l'aspect rationnel et l'aspect irrationnel. Et la question qu'on se pose, c'est nous, où on se situe dans tout ça ? Ok. Alors il dit comme ça. Lavin Lashon Chelkenu Vegoralenu. C'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va essayer de comprendre le terme Chelek et Goral. Ça veut dire, comment justement marier le rationnel et l'irrationnel, le détail et le général? Comment marier tout ça? Alors il dit, pour répondre à cette question, Sarich Levaer Etev, la chaîne Ashagom Amarach Hazal. Comme d'habitude chez les Juifs, quand on veut répondre à une question, on répond par une autre question. Alors il dit, pour répondre à cette question, je vais te poser une autre question. Il dit, il y a un terme qui est très fréquent chez les Chachamim. Qui dit quoi? Qui dit, En lo chelek, beloke Israël. On dit par exemple que En lo chelek beloke Israël, c'est un terme qui est très connu sur beaucoup de choses. On dit que celui qui se comporte de telle et telle manière, En lo chelek beloke Israël, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Par exemple, celui qui touche à sa brit mila, d'accord, qui enlève la brit, et qui n'a pas de raison médicale de le faire, Elle lo chelek beloke Israël, il n'a pas de part dans Dieu d'Israël.
Attends, mais j'ai pas compris.
Il se recoue.
Oui. Une manière de.
Ah ouais.
Oui, sûr.
C'est sûr.
Il y en a qui faisaient pendant les inquisitions.
Pas seulement ça, il y en a même aujourd'hui qui, il y a même aujourd'hui, vous savez, les services secrets israéliens, les agents secrets, il y a beaucoup qui le font. Parce que sinon, quand ils sont arrêtés dans les pays, la première chose qu'on fait, on regarde s'ils ont l'ami là. Ah bah oui.
Il y en a beaucoup qui le font aux États-Unis.
Quoi? Oui, mais bon.
Je savais pas ça. Pourquoi ils font ça aux États-Unis?
Les États-Unis, ils font par
ils font pas de la même manière que nous. Ils font pas de la même manière que nous. On a une manière spéciale. D'accord. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a plusieurs endroits dans la Torah dans lesquels on dit celui qui fait ça et ça, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Quel mot on retient ici? Il n'a pas de
part.
Pourquoi part? Ça veut quoi une part? Toi, tu me poses la question, ça veut dire quoi? Des fois, tu me dis, Dieu va me donner ma part et mon sort. Moi, je suis dit, attends, tu veux comprendre ce que ça veut dire? Je pose une autre question. Des fois, on dit, celui qui fait ça et ça, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est quoi de part?
En vrai, on aurait dû dire, il n'a plus de part. En vrai.
D'accord?
Non?
Alors, d'abord, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi d'abord avoir une part? Avoir une part dans Dieu? Ça veut dire quoi? Bah oui, c'est ce qu'il dit. En lo chelek. Ça, c'est un terme qui est très fréquent.
Alors, sa place.
D'accord, d'ailleurs, vous n'avez pas été choqué quand je vous dis il n'a pas de part dans Dieu d'Israël, c'est un terme qu'on entend, c'est un terme qu'on connaît. Torah Terra. Non, c'est donne-nous notre part dans ta Torah.
Oui,
autre chose. Oui, j'ai compris, mais là, c'est pas de ça que je parle maintenant. Là, je parle de En lo chelek beloke Israël.
À partir du moment où nos âmes, elles viennent de Dieu,
oui.
C'est notre part.
Oui,
c'est une part de Dieu, donc voilà.
Mais ça veut dire quoi qu'il n'a pas de part dans Dieu? Est-ce qu'il y a des particules dans Dieu?
Et tout est particule de Dieu.
Non, Rasvei Shalom, Dieu ne peut pas se séparer en particules. Parce que par définition, si tu dis particule, c'est-à-dire que tu n'as pas d'unité.
C'est une entité, une globalité.
Tu comprends? Donc on revient à la même question. Ouais. Est-ce que vous voyez comment on arrive à cette question? Qui te dit particule, ça veut dire que j'accorde de la place à l'individu. Mmh. Alors que si tu dis entité, une seule entité, d'accord? Dans ce cas-là, j'accorde la place à la globalité. Est-ce que vous me suivez? Mmh. C'est la question qu'on est en train de se poser. Mmh. D'accord? Donc on va bifurquer sur ça maintenant.
Ouais, c'est l'enjeu de la politique actuelle. Hein.
Peut-être, je ne sais pas la politique, mais en tout cas, moi, je...
Au niveau économique, c'est tout à fait ça.
Ah, au niveau
économique. Dualisme, l'individualisme, c'est tout à fait ça.
Individualisme méthodologique.
Donc, la vie, la chaîne, nous, vous inquiétez, on va développer longuement. La vie, la chaîne,
contredit au holisme, en
général. Chelkenu Begoral.
Tu as différents niveaux de l'individualisme. Le plus répandu, c'est le...
En général, les deux qui se...
L'individualisme méthodologique, mais tu as aussi l'individualisme structurel.
Hein? Ouais. Bon, ça. Alors.
En général, quand on étudie, moi j'ai fait les mêmes bords que tu as enseigné.
Allez, alors on y va. La vie, la chaîne de Kenouk, elle l'aurait débloqué Israël, qui a gamme, délire, aura, le chayach, la chaîne de Kenouk, elle est le coup de barrière, mais je ne comprends pas. Donc je reprends. Il dit, nous on veut comprendre quelle est la différence entre la part et le sort, chélek et goral. Il dit, pour comprendre la différence entre chélek et goral, on va prendre une autre notion qui a écrit, quand on te dit qu'une personne n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est vrai qu'il n'a pas de part. Mais l'Ihora, a priori, on ne peut pas employer le terme part par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, chez Einomit chélek la chalakim chazé shalom, un Kadosh Baruch Hu ne peut pas se séparer en particules. Parce que par définition, si tu dis séparer en particules, ça veut dire, regardez, par exemple, j'ai ici une feuille de papier. D'accord?
Non, pas ça.
Regardez. J'ai une feuille de papier, j'ai ici un cahier. Combien j'ai de feuilles à l'intérieur?
180.
Hein?
180.
50, non? Combien t'as dit?
Il y a une page. Non, c'est pas
180. Combien t'as dit?
180.
Il y a 40 pages, de 40 pages.
Non.
Une cinquantaine, avec le verso,
c'est une centaine, non?
Quoi?
87.
D'accord.
Alors regardez. Il y a un cahier. Ça c'est un cahier. D'accord. Mais si je compte les feuilles, si j'ouvre les feuilles, je dis bon, il y a une feuille, plus une autre feuille. Dans chaque feuille, d'accord, c'est une feuille. Mais tu as, quand tu rentres dans les détails, tu as des lignes. J'ai des lignes, j'ai de l'encre. Ici, il y a des endroits où il y a plus d'encre, des endroits où il y a moins d'encre. D'accord. Chaque partie de la feuille, bah, en vérité, ça vient du bois, c'est un morceau, etc. Ça veut dire que chaque chose, plus tu avances, et plus tu vas retrouver un aspect individuel dans chaque élément qui te paraît faire partie d'une globalité. D'accord? Mais si tu acceptes ça, ça veut dire que tu considères qu'en vérité, chaque élément qui a, chaque petit atome qui est à l'intérieur, a le droit d'exister séparément. Si tu dis la même chose par rapport à Dieu, qu'un juif, par exemple, qui fait telle et telle affaire, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël, et donc ça veut dire qu'on est tous, on a tous une part. Ça veut dire que Kaviarol, Akadosh Baruch Hu, c'est pas une seule entité. C'est plusieurs millions de choses, ou milliards, ou etc., qui sont rassemblées ensemble et qui forment une seule entité. Ça, on peut pas dire pour Akadosh Baruch Hu. Ça, tu peux dire pour un cahier. Tu peux dire pour une feuille de papier. Tu peux dire pour un verre, tu peux dire pour ce que tu veux. Je peux pas dire ça pour Akadosh Baruch Hu. Donc le terme...
Alors avant, dans les autres religions, c'est ce qu'ils disent. Hein.
Le terme, justement. Donc le terme chélek, le terme part, a priori, n'est pas approprié. Alors pourquoi, comment ça se fait dans ce cas-là que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit que celui qui fait tel et tel verre, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël? Alors il explique. Ah, haïnat komoshekatou. En vérité, la réponse à cette question, et là, on va tout comprendre. Et c'est komoshekatou, comme c'est écrit. Mais Yaakov, à propos de Yaakov Avinu, c'est écrit. Va ikra lokel eloke Israël. D'accord? Donc, il dit qu'on voit que Yaakov Avinu, à un certain moment, quand il a voulu remercier Akadosh Baruch Hu, il a appelé Dieu, Dieu le Dieu d'Israël. D'accord? Alors là, on va pousser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il va expliquer? C'est très intéressant ce qu'il va expliquer ici. Ce qu'il va expliquer ici, c'est qu'en vérité, tout dépend des lunettes qu'on va prendre. Et ça, c'est magnifique, comme il va l'expliquer. C'est-à-dire comme ça. En vérité, si tu vois le monde, en vérité, le monde, dans le monde, t'as pas de particules. T'as ni de nom de Hachem, ni de nom de Yud-Kivav-Ké, ni de particules, t'as rien. C'est une seule entité, l'entité d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand l'homme, avec ses lunettes, il décide de voir des particules, et de trouver des qualités, de trouver des qualités par-ci, des qualités par-là, il va trouver ce qu'il cherche. J'explique, je vous donne un exemple. Prenez par exemple, vous avez en face de vous votre enfant. Vous avez en face de vous votre femme. Vous avez en face de vous vos parents. Vous avez encore une fois toujours deux manières de prendre la chose. Écoutez bien ce que je veux dire. Très important. Vous avez une première manière de dire, c'est mon père. C'est mon fils. Avec tout ce qu'il peut contenir. Peu importe les défauts et les qualités qu'il a. C'est mon père, c'est mon fils, c'est lui. C'est une seule entité. D'accord ? Après, tu vas prendre les lunettes et tu vas dire, je vais essayer de trouver dans mon fils la bonté. Je vais essayer de trouver dans mon fils l'intelligence. Je vais essayer de trouver dans mon fils la beauté.
Dans nous-mêmes déjà.
D'accord ? Non mais, ça veut dire quoi ? Exactement, même dans nous-mêmes. Ça veut dire qu'après, la force de l'homme, et c'est ça ce qu'on va voir chez Yaakov Avinu, c'est que même dans la divinité, la force de l'homme, c'est que l'homme va être capable de prendre un élément qui extérieurement a l'air uni, et il va découvrir comment en vérité cet élément est construit de plusieurs éléments. Et ça, moi, quand je vois ça et que je vois ce qu'on fait aujourd'hui en physique, je dis qu'en vérité, ces choses-là étaient déjà écrites dans la Torah. C'est ce qu'on fait en physique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en physique? On va prendre chaque élément, on va essayer de le décortiquer et de te prouver comment l'élément que tu croyais être un seul élément, en vérité, c'est des millions d'éléments. D'accord? Et l'élément qu'aujourd'hui, le plus loin qu'on ait pu arriver, demain, on dira qu'il y a en vérité cet élément-là et c'était aussi plusieurs millions d'entités d'une autre entité. Ça veut dire quoi? Ce qu'il va expliquer ici. Ça de qui on l'apprend? De Yaakov Avinu. Qu'est-ce que tu dis Yaakov Avinu? Yaakov Avinu te dit, il faut pas regarder les choses. C'est vrai que extérieurement le monde, il peut te paraître simple, il peut te paraître uni. Nous, ce qu'on doit essayer de chercher, c'est au travers de cette apparence unie, on doit essayer de chercher, pas les complications, mais on doit essayer de chercher les détails. C'est ce qu'on fait quand on étudie la Torah, quand on étudie le Chumash. Et c'est ce qu'on fait quand on analyse sa propre personne, quand on analyse sa femme, ses enfants, quand on analyse sa famille, quand on s'analyse soi-même. Tu prends quelque chose qui te paraît simple, et au travers ce rideau qui te paraît simple, tu vas démontrer qu'en vérité, ce rideau qui t'avait l'air une seule entité, en vérité, il est composé de plusieurs entités. Et qu'en vérité, chaque entité, tu peux la séparer, et l'ouvrir, et l'ouvrir, et l'ouvrir, et l'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ça, en vérité, on va expliquer qu'il y a l'aspect chélek, il y a l'aspect naturel, mais que dans le naturel, tu peux trouver le surnaturel.
Donc, alors Yaakov et nous, ce qu'il a fait, c'est d'intégrer toutes les individualités quand il a remercié Hachem en disant, en utilisant le terme Israël, d'accord, quel Israël, ça veut dire que tous ces individus aussi différents, aussi complexes, aussi multiples qu'ils soient dans toutes les qualités, tout ce qu'on veut,
ils ne font qu'un seul. Mais justement,
qu'une seule toile.
Le rôle de l'homme, c'est quoi? Le rôle de l'homme, c'est d'aller chercher et d'aller décrypter et d'aller essayer de voir de quoi c'est composé. Je me rappelle que quand la première fois que j'avais découvert que dans la matière, en vérité, il y a des atomes. et que on sait qu'un atome ça bouge. C'est-à-dire que tu nous parles, j'ai ici une feuille de papier qui m'a l'air inerte, mais en vérité, quand, avec les bons outils, on voit qu'en vérité il y a des choses qui bougent. Et c'est impressionnant quand on voit ça. C'est presque surnaturel. C'est-à-dire que la feuille de papier elle m'a l'air naturelle, mais quand j'arrive à rentrer dedans et à la décrypter, qu'est-ce que je découvre? Je découvre un élément surnaturel. Là, on vient d'avoir un exemple concret de Chélek et Goral. Chélek, c'est la part, c'est l'aspect naturel. Tu prends la feuille de papier, et c'est l'air naturel. Cette même feuille de papier, tu vas la prendre, tu vas essayer de la décrypter, de rentrer dedans, et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas retrouver des choses Goral, des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. D'accord? Ça, c'est le paradoxe entre Chélek et Goral, qu'on va essayer de développer.
Le Goral, c'est le hasard, on a dit.
C'est pas le hasard. C'est l'aspect surnaturel, l'aspect incompréhensible. L'aspect qui nous dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en vérité, ce que va expliquer ici, c'est qu'on le retrouve partout dans toute l'humanité. Partout. D'accord? Chaim, Chaim.
Non, merci.
Tu nous donnes ta part?
Je te donne ta part. Je suis généreux, je te donne ma part. Pas trop là.
C'est magnifique comment expliquer ici. Est-ce que vous suivez ou je repasse une couche?
Non, non, c'est bon.
Bah, on a compris l'introduction.
Mais quand même, il faudrait que tu reviennes sur mon verset, parce que je comprends.
Bah justement, ce qu'on a expliqué.
Bah, c'est surnaturel, la part du tzaddik. La part du tzaddik, parce que... il l'a mérité. C'est normal que le rachat, il n'est pas sa part.
Quand on dit surnaturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le vrai salaire n'est pas dans ce qui est naturel. Le vrai jeu se passe en haut, se passe en mode Goral, pas en mode Relay. C'est la réponse. C'est qu'en vérité, ce que tu vois en mode Relay ici, c'est rien. C'est comme la feuille de papier. Quand tu vois une feuille de papier, tu dis c'est naturel. Tu dis je la maîtrise, je la touche, je l'attrape. D'accord? Mais en vérité, quand tu arrives à rentrer et voir en vérité de quoi est composée cette feuille de papier, tu vois que tu n'attrapes rien du tout.
Bah donc il y a une prédisposition. Alors.
D'accord? Oui. Non. Justement. Est-ce que quand je dis j'attrape cette feuille de papier, et que la feuille de papier, c'est du papier, et que là maintenant elle bouge pas. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, c'est vrai. Vu avec mes yeux comme je le vois maintenant, c'est vrai. Mais si je prends les bons outils et que je vais découvrir qu'en vérité il y a toute une vie à l'intérieur, c'est aussi vrai. Donc j'ai un aspect Chélek, un aspect Goral. Les deux sont vrais. Tu comprends? C'est la même chose. Tout ce qu'on a autour de nous, il y a toujours un aspect simple et toujours un aspect pas compliqué mais composé de beaucoup de détails. Et ça dépend des lunettes que je vais vouloir prendre. Si tu veux analyser les choses de manière simple, dire tout est simple, tout sera simple. Tu veux analyser les choses de manière pas compliquée, mais de rentrer dans les détails, et ben dans ce cas-là, tu vas trouver une multitude de détails. C'est complexe. D'accord? C'est ce qui va développer ici. L'aspect Chélek, l'aspect Goral. Maintenant, en vérité, on fait que poser le problème, parce que la question qu'on se pose toujours, c'est justement, comment quel est l'équilibre qu'on doit mettre entre les deux?
Entre... La notion de Mazal, elle intervient.
D'accord? La notion de Mazal. La notion de Mazal, c'est qu'on te dit Dieu va s'assurer que tu vas tomber sur la bonne feuille de papier.
Donc,
je donne un exemple. Je vais expliquer ce que je veux dire. J'ai ici deux livres. D'accord? J'ai devant moi deux livres. On est d'accord? Deux livres. Deux livres qui sont en face de moi, physiquement, c'est du papier. C'est du papier les deux. Donc si je choisis un plus que l'autre, bah, c'est un papier par rapport à un autre papier. Très bien. C'est quoi le Mazal? C'est que Kadosh Baruch Hu dit, tu sais, dans ce papier que tu vas choisir ici, si tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, il est plus important pour toi que celui-là. Donc je vais m'arranger pour que tu prennes celui-là. Toi, tu sais pas pourquoi. Toi, pour toi, tu as choisi parce que la couleur ou parce que ce que tu veux. Mais en vérité, je vais m'arranger que tu prennes celui-là parce que dans celui-là, tu as un Mazal qui te correspond plus. Mais c'est ça le Mazal. Mais en vérité, ça veut dire qu'il faut savoir que dans la vie, toujours en parallèle, on a l'aspect Chélek, l'aspect Goral. Et ça, quand on réfléchit, on voit, c'est pour ça que des fois dans la vie, il y a des choses qu'on comprend. On dit, waouh, je comprends ce qui m'arrive. Et des fois, il y a des choses qui nous paraissent simples.
Et là, on est en mode quoi?
D'accord? Justement, ce qu'il va t'expliquer,
c'est
que dans ta vie, en vérité, tout est simple et tout est compliqué. Seulement, des fois, tu vas voir les choses de manière simple. Des fois, tu vois les choses de manière compliquée. Mais en vérité, tout est simple, tout est compliqué. C'est comme la feuille de papier. Il y a toujours les deux. Il y a toujours l'atome et il y a toujours la feuille de papier que tu peux toucher. Les deux sont là. Les deux sont vrais. Seulement, ça va dépendre du moment, ça va dépendre des lunettes que tu vas mettre, ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel tu vas te mettre. Tu verras à chaque fois une autre chose. Pourquoi Admon Razakhan dit ça? Ça va être un élément très important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une personne n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une part dans le Dieu d'Israël? Et qu'est-ce que ça veut dire la part? D'accord ? La part, c'est l'aspect naturel, la relation naturelle, ce qu'on va expliquer ici. Et donc, ce qu'on veut s'expliquer, c'est que dans la vie, il y a toujours un aspect naturel et un aspect surnaturel. Elle va développer ça longuement, donc je vais laisser dans les mots maintenant. Pirouche, ça veut dire. En vérité, Akadosh Baruch Hu Kishmo Kenhu. Akadosh Baruch Hu porte bien son nom. C'est vrai qu'il porte bien son nom. Le terme Kadosh en hébreu, ça veut dire quoi?
Sainteté.
Ça veut dire séparé?
Sainteté, séparé.
Distant. Donc quand on dit Akadosh Baruch Hu, Bemet il est distant. C'est-à-dire Bemet c'est quelque chose qui par définition est distant de nous. Av dehi umale kol almin alunim etartanim roma mamalot admitachat laaretz alazo achumrit kumo shekatuv alat hashem etaretz animale animamash dainu ma'uto vatzmuto kaviyachol velo kvodo levad afalpi kenu kadosh umuvdal me'elyonim etartanim. Que la même qu'en vérité chez Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu porte le nom Kadosh? Que bien que Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est omniprésent. Il est présent en haut, il est présent en bas, du plus haut niveau au plus bas niveau. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu est toujours considéré distant. Pourquoi il est considéré distant, Akadosh Baruch Hu? Il n'est pas distant, Akadosh Baruch Hu.
On ne peut pas le...
Exactement. Quand je dis quelque chose est loin, ça ne veut pas dire qu'il est loin. C'est-à-dire que pour moi, il est loin. D'accord? Vous savez, c'est comme dans l'esprit. Dans l'esprit, quand je dis, waouh, c'est loin pour moi comme concept. Ça veut dire quoi, c'est loin? Ça veut dire que j'arrive pas à l'attraper. C'est-à-dire que c'est trop lourd. Mais ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. Ça veut pas dire que la chose ne me concerne pas. D'accord? Quand je dis, j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive, c'est trop loin pour moi, c'est trop compliqué, trop distant pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas dans ma vie, ça se passe maintenant, ça se passe devant moi, ça se passe ici. Mais, comme c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, pour moi c'est distant. Il dit, c'est la même chose pour un Kadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'un Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh, ça ne veut pas dire Chas V'Shalom que Kadosh Baruch Hu, il est distant. Non, Kadosh Baruch Hu, il est jamais distant, il est là, Kadosh Baruch Hu. C'est comme l'atome qui est dans cette feuille de papier. Il est là, il est devant moi. Pourtant, pour moi, quand tu vas me tirer, tu sais, dans la feuille de papier que tu tiens dans ta main, tu attrapes, il y a un atome, il y a des millions d'atomes qui sont en train de tourner. C'est distant pour moi, ça, comme notion. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est fou, quoi. Je l'attrape, et il est là, le papier, je le couche. C'est distant. Pourquoi je dis que c'est distant? Pourtant, je le tiens. Je dis c'est distant parce que la notion est distante. C'est quelque chose qui me parle pas, quelque chose qui je comprends pas, je touche pas, je saisis pas. Mais il est là. C'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il est partout. Et il peut jamais être distant. Quand on dit qu'il est distant, ça veut dire que pour nous, il est distant. Exactement comme dans la feuille de papier. Ça veut dire que pour moi, la notion de papier, c'est une notion qui est tangible, qui est claire. Et la notion des atomes qui est à l'intérieur, c'est une notion qui est distante, qui est loin, qui me concerne pas, qui me parle pas. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Akadosh Baruch Hu. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est distant. Pas qu'il est distant, Bémet. Que pour nous, il nous paraît distant, ça nous a l'air tellement, c'est des choses qu'on ne peut pas saisir. Veno nitfas klal betocham chas veshalom, kitfisat nishmat adam begufol derech machal. Regardez. Et tu veux, je te donne un exemple de quelque chose qui n'est pas distant. On va prendre l'exemple de l'âme et du corps. Parce que finalement, Dieu s'habille dans le monde. Dieu fait vivre le monde. D'accord? Alors, on dit que la manière comment Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde, c'est expliqué en Chassidut que Mipsari Rezeloka, au travers de notre chair, on peut voir Dieu. Comment? La manière comment on voit notre corps fonctionner, ça peut nous aider à comprendre comment Dieu a créé le monde. Ok. Sauf qu'il y a quand même des différences. Comment on va expliquer? On dit que la Neshama, elle ressent chaque membre du corps. Elle ressent chaque membre du corps. Je vais donner un exemple. Par exemple. Vous avez mal au petit doigt ici. L'ongle, il a sauté. Ça vous fait mal. D'accord? Qui c'est qui a mal?
D'accord.
Mais qui a mal?
Le doigt.
J'ai compris. Mais comment ça se fait que c'est tout le corps qui a mal? Pourquoi c'est pas que le doigt qui a mal?
Parce que c'est irradié.
Mais pourquoi?
Parce que le nerf a envoyé une liaison électrique au cerveau.
Et pourquoi?
Parce que tout est irradié.
J'ai une voiture. D'accord? Imaginons que c'est le pot d'échappement qui a pris un coup. Il n'y a que le pot d'échappement qui a mal. Le moteur, il a pas mal.
Bah oui, parce
qu'il n'est pas relié.
Quoi? Bien sûr qu'il est relié.
Le pot d'échappement, il n'est pas relié. Pas
mal, mais bien sûr qu'il est relié.
Il roule pas bien.
Ah, il roule pas bien, j'ai compris, mais il a pas mal.
Oui, bah mal, il ressent pas, c'est normal.
Il ressent pas, bah oui. Ah, pourquoi on ressent? Qui ressent?
Le cerveau.
D'accord. On explique en Chassidut qu'en vérité, c'est la Neshama. Parce que la Neshama, elle ressent chaque membre. Parce que c'est elle qui les fait vivre. Elle ressent chaque membre comme un mère, comme une mère est attachée à ses enfants.
Alors pourquoi si tu coupes
Attends,
les
seconde.
Nerveuses, tu ne ressens pas.
D'accord, j'ai compris. On y arrive. Ça veut dire quoi? On dit que la Neshama, elle ressent chaque membre comme une maman et elle ressent ses enfants. Et elle, elle est attachée à elle. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un membre qui ne va pas, hein, ce n'est pas que ce membre qui ne va pas. C'est le corps entier qui ne va pas. Parce que la Neshama, elle ne va pas bien. Donc si la Neshama ne va pas bien, le corps entier ne va pas bien. Quand tu as coupé la liaison nerveuse, comme tu dis, alors tu as coupé la relation. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ce membre, s'il n'est plus alimenté, ce membre, il va finir par se, comment on appelle, par se décomposer. Il va
couper par de l'anesthésie, en fait.
Ah, d'accord. Mais si tu vas le couper, il va se décomposer. Parce qu'il n'aura plus l'énergie de la Neshama. Il va finir par se décomposer. C'est une question de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais expliquer ici, c'est qu'en vérité, la Neshama, elle ressent le corps. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, il nous ressent. Le corps ressent la Neshama ressent le corps. Nous, on ressent un Kadosh Baruch Hu, il nous ressent. Comme disait le Magid de Meserich.
Nous, on ressent un Kadosh Baruch
Hu. Oui, bien sûr. On sent la présence d'un Kadosh Baruch Hu. Mais, ça ne change pas que pour la Neshama, pour le corps, la Neshama, c'est quelque chose de distant. Pour la Neshama, le corps, c'est quelque chose qui ressent comme un Kadosh Baruch Hu. Pour un Kadosh Baruch Hu, le corps, il dit, mais je l'attrape, moi, je suis là. Mais de l'autre côté, pour le corps, quand tu lui parles de la Neshama, il dit « Ah, la Neshama !» Mais c'est très distant. C'est pour ça que nous, quand nous, avec notre cerveau, on essaye de s'imaginer la Neshama, on dit « La Neshama, c'est loin !» Pourtant, c'est en nous. Pourquoi je dis que c'est loin? C'est exactement la même chose qu'avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il est proche de nous, et nous, on a l'impression qu'il est loin de nous. La distance. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Qu'est-ce qui crée la distance? C'est le fait de ne pas comprendre.
C'est pour ça qu'on a quand même du mal à croire qu'on a quand même un libre-arbitre.
Oui, ça c'est bon, ça c'est un autre sujet, ça, c'est déjà assez compliqué comme ça.
Le fait est qu'on soit si proche et que chaque chose est ressentie par l'âme,
c'est clair.
Par rapport à ce qu'on a déjà dit avant,
on a notre libre arbitre est très limité. Très limité. On fera un Bezrat Hashem.
J'ai du mal à croire qu'il existe.
Non, il y a un libre arbitre, mais il est très limité. Là, ce que je vais expliquer ici, c'est la notion de distance.
On sort d'Égypte, là, quand on va par Aaron, finalement.
D'accord.
Après, lui, c'est pas nous. On dit en plus qu'il a fait teshuva.
Lui, c'est pas nous.
D'un côté, il a pas eu son libre arbitre pour.
Alors.
Ça, c'est le Mida Kenega Mida pour son.
Et donc, il dit comme ça.
C'est un Mida Kenega Mida pour son libre arbitre à lui. Ça n'a rien à voir.
Alors, c'est pour ça qu'on voit, quand on voit dans les textes de Kabbalah, je vous explique un peu à l'oral, parce que là, c'est une lettre qui est assez compliquée, comme vous pouvez le voir. Donc, on va essayer quand même de simplifier un petit peu. Et Bezrat Hashem, on reviendra dessus la semaine prochaine. Alors, c'est pour ça que quand vous voyez beaucoup de textes de Kabbalah, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a dû passer par différentes, on appelle des lumières, différents voiles, différents intermédiaires. Comme par exemple, les noms de Dieu, c'est un intermédiaire. Des filtres. Pourquoi on passe par un filtre? C'est très simple. C'est quoi le rôle du filtre? C'est comme une lunette. C'est moi, j'arrive pas à voir les atomes. On dit ok, pour toi, les atomes c'est 10, on va te donner des bonnes lunettes. Mais par définition, dès que tu mets des lunettes, obligatoirement, ça sera jamais aussi clair, ça sera jamais aussi limpide que si tu voyais sans lunettes. Parce que dès qu'il y a un filtre, forcément ça atténue. Alors imaginez-vous, nous, le nombre de filtres qu'on a. On va finir par voir quelque chose.
Ah, ça atténue, ça peut éclaircir aussi. Hein.
Non.
Ouais, avec quelqu'un qui voit mal de loin, tu lui donnes des lunettes.
Non, mais si t'as un 10 sur 10 avec des lunettes, tu verras pas aussi bien qu'un 10 sur 10.
J'ai compris. Alors ça, on explique en Chassidout, on dit qu'il y a un intermédiaire qui sépare et un intermédiaire qui unit. Ouais. Mais ça ne change pas que dans tous les cas, dès qu'il y a un intermédiaire, c'est une coupure. C'est-à-dire, quand je dis c'est une coupure, c'est-à-dire que ça ne sera jamais de la même manière que sans intermédiaire.
Parce qu'avant de porter des lunettes pour lire, par exemple, on te dit, tous les médecins te disent, en général, la moyenne, c'est à partir de 40 ans, la vue commence à baisser un petit peu, et tu vas être amené à utiliser des lunettes pour
lire. Lunettes, ouais.
Alors, certains, ils peuvent pousser 2, 3, 4, 5, 6 ans, mais inévitablement, tu vas arriver à avoir des lunettes pour lire. Pas pour voir de loin, mais pour lire. Donc, si tu veux voir les choses petites en détail, eh ben, tu as besoin de ce filtre-là qui va te permettre de grossir et de mieux comprendre.
J'ai compris.
Donc, pour que ça soit plus clair.
Bien sûr.
Donc, c'est pas toujours...
Mais ce que je veux dire...
C'est pas un filtre qui atténue.
Non.
C'est un filtre aussi qui te permet de... d'éclaircir, d'agrandir, de,
il te permet
de rendre plus visible, plus accessible.
Mais ça change pas par rapport à celui qui n'a pas besoin de lunettes.
Ah bah, sinon, tu vois, voilà. Oui, mais moi, au début, j'avais 10 sur 10 partout, de près que de loin, voilà, pas de problème.
Voilà.
Mais après, bon, mais au début, bon, c'est rare, les gens qui, bon, il y a des individus, des bébés, que dès le premier âge, ils ont des lunettes, etc.
Des lunettes.
Bon. Mais la grande majorité des gens, ils ont pas de lunettes avant un certain âge. Bon. Mais après,
moi, j'ai l'autre partie
de la personne quand elle vieillit, bah, c'est clair, hein, on a moins de force dans tous les niveaux, ouais, on a besoin d'aide, les lunettes, etc. Quoi,
ah, je veux dire. Alors besoin de lunettes, ça y est.
Voilà, c'est clair.
Mais pas pour voir de près, pour voir de loin.
Ah, voir de loin, d'accord.
Moi, c'était de près, à l'âge de 46
ans. C'est important, ça prend la conduite.
Ça fait 4 ans que je l'ai...
C'est pour ça, justement, que je me suis aperçu, parce que tu as repassé mon permis, enfin, renouvelé mon permis.
C'est quoi, renouveler? Pourquoi?
J'ai un permis poids lourd. Tous les 5 ans, il faut le renouveler, tu vois.
Mais tu conduis plus de poids lourd.
Je conduis pas, mais je le renouvelle, quand même, jamais.
Ouais, c'est... Alors, on continue avec l'exemple des... Oui, je suis en train de dire. Imaginons que je veux relier en électricité, dans un circuit électrique, je veux relier le point A au point B. D'accord ? Donc il faut un fil, il faut un circuit pour le relier, point A au point B. Mais c'est évident que dès qu'il y a un circuit, donc c'est un intermédiaire, forcément ça va atténuer, c'est sûr que ça va atténuer. Dès qu'il y a un intermédiaire, ça va atténuer. Seulement, bien sûr que j'ai besoin de ce circuit, parce que sans circuit, il n'y a rien qui va passer.
Ouais, mais le fait d'avoir un intermédiaire, c'est pour...
Plus on est proche de la source, plus l'intermédiaire est réduit, et plus l'intensité sera forte. C'est une règle en physique, oui, obligatoire. D'accord ? Donc on dit de la même manière. On dit en vérité, ce qu'on va expliquer, Bézrat Hachem, la semaine prochaine, on ne va pas trop tarder parce que j'ai gagné les enfants, ce qu'on va expliquer, Bézrat Hachem, la semaine prochaine, on va expliquer comment Akadosh Baruch Hu, il a mis des filtres. C'est quoi les filtres qu'Akadosh Baruch Hu a mis? C'est la Torah. Par exemple, quand on parle de la Torah, de la main de Dieu, la force de Dieu, d'accord, etc. C'est des filtres, tout ça, pour nous aider à comprendre un petit peu la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est des filtres. Maintenant, le filtre par rapport à ce que c'est réellement, bon, le filtre, ça correspond à ce que c'est réellement, mais c'est vraiment atténué, atténué, atténué. Mais on te dit, mais c'est mieux ça que rien, parce que sans ça, tu vois rien.
Sinon, on se brûle les yeux.
D'accord, sinon, tu vois rien. Donc là, avec ça, il veut nous faire un petit peu l'équilibre entre, d'un côté, l'aspect chélek, et d'un autre côté, l'aspect goral. C'est-à-dire, il te dit, regarde, toi, tu te poses la question, tu dis, est-ce que ce que je comprends de Dieu, est-ce que c'est rien par rapport à ce que c'est? On te dit, non, rien, c'est pas rien. C'est sûr que c'est quelque chose. Ce que tu comprends, c'est quelque chose. Mais sache que c'est infime par rapport à ce que c'est réellement. Ah, pourquoi tu vois pas ce que c'est réellement? Parce que ce que c'est réellement, c'est trop loin pour toi. Tu peux pas le voir. Donc on te donne ce que tu peux comprendre. D'accord? L'aspect chélek, l'aspect goral. Voilà pourquoi à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Kadosh. Pour dire il est distant. Pour dire on n'arrive pas à l'attraper. Et donc, on va développer la semaine prochaine comme en vérité à Kadosh Baruch Hu, les lunettes qu'il nous a données, c'est les mitzvot. Toutes les mitzvot qu'il nous a données.
Ah oui, c'est ça.
Eh oui. Adam Harishon n'avait pas de mitzvot. Pourquoi il n'avait pas de mitzvot? Parce qu'il discutait en réel avec Kadosh Baruch Hu. Il voit la feuille, il voit l'atome. Il n'a pas besoin de mettre de lunettes. Nous, on a besoin de mettre de lunettes. Et chaque mitzvah nous donne une lunette différente pour voir un aspect différent du monde, un aspect différent d'Akadosh Baruch Hu.
Est-ce qu'il a perdu cette faculté après la faute ou pas?
Qui?
Adam.
Non, c'est après. On dit qu'il n'a pas besoin des mitzvot. Nous, on a besoin des mitzvot aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas besoin de ça.
Cette faculté de voir plus loin que
l'eau. Ah, matériel. Certainement, c'était pas comme avant. Normalement, ils n'avaient pas besoin. Mais après, c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est nos lunettes. Nos lunettes qui nous permettent de voir. Donc, avec ça, on va répondre un petit peu à la question. On développera surtout la semaine prochaine. On va répondre un peu à la question. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu pense, l'équilibre qu'on doit avoir entre l'aspect basique, la feuille de papier, et l'aspect détaillé, l'atome qu'il y a dans la feuille de papier. D'accord? Quel équilibre on doit mettre dedans? La réponse qu'on va donner la semaine prochaine, c'est que normalement, il faut se focaliser, de manière générale, il faut se focaliser sur les détails. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. C'est de comprendre ce qu'on fait et de rentrer dans les détails. De comprendre. De rentrer.
C'est paradoxal. Pourquoi tu fais, après tu comprends.
Pourquoi?
Pour
parce qu'on va expliquer qu'en vérité, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est qu'en vérité, chacun de nous, il a une mitzvah qui lui correspond à sa neshama, qui correspond à sa neshama. Et cette mitzvah qui lui correspond à sa neshama, c'est un petit peu comme si je te dire que tu rentres dans une boutique pour acheter des lunettes, tu as 613 paires de lunettes,
donc, toi,
tu peux toutes les mettre, d'accord, mais tu en as une qui te correspond. c'est celle-là ta paire principale.
Je ne vais pas lui dire, j'ai pas essayé 600 lunettes. Hein,
d'accord, non, mais est-ce que vous voyez l'exemple? C'est-à-dire tu peux toutes les essayer, et tu vas certainement les essayer.
J'ai 40.
Et aujourd'hui, tu verras d'ailleurs, quand tu achèteras des lunettes, tu verras que voilà, par exemple, moi j'ai acheté, ils m'ont donné une deuxième paire que je n'ai jamais mise. Bon, c'est... Voilà,
ouais,
c'est...
Moi, je...
D'accord. Ça veut dire que... Mais tu as une paire principale.
Ils ont 5.
C'est-à-dire quoi les paires principales? C'est-à-dire c'est la paire qui correspond à ta neshama. Ce qu'on va expliquer la semaine prochaine. On va expliquer qu'en vérité, dans la vie, il faut savoir donner de l'importance à l'aspect chélek. L'aspect chélek, c'est-à-dire l'aspect, la part, ce que je peux comprendre, ce que je peux essayer de rentrer. Tout en sachant que derrière tout ça, il y a goral, etc., quelque chose de très profond. Mais nous, on doit essayer de comprendre et de rentrer dans les détails. Je ne peux pas trop développer encore parce que c'est la semaine prochaine. D'accord ? Mais ce que je voulais développer aujourd'hui déjà, c'était la notion de chélek et goral, et comment on doit chercher à faire l'équilibre entre l'aspect naturel et l'aspect surnaturel. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je reviendrai dessus. Et on développera la projet de Mourazaken sur cette question.
Alors, donne-moi l'adresse, la mail, que je vais mettre pour l'enregistrement.
Alors, juste deux secondes. La semaine prochaine, il donnera, et ça rejoindra un cours qu'on a fait aussi un Shabbat après-midi. La semaine prochaine, il donnera des exemples des mitzvot, des 613 mitzvot. Comment les. Alors, c'est magnifique comment il va expliquer. Il va expliquer comment en vérité. Chaque mitzvah est une paire de lunettes. Une sorte de paire de lunettes qui nous permet de voir le monde. Maintenant, chaque mitzvah, il existe autant de variantes de la mitzvah que de neshamot. C'est-à-dire qu'en vérité, si je veux savoir le nombre de paires de lunettes qui existent, c'est pas que 613. C'est 613 puissance 600 000.
Ouais, bah oui, puisque t'as 600 000...
T'as 600 000 neshamot.
Je sais, ton iPhone.
Et chacune des neshamot, je sais pas si pour
régler... Ça sert à rien, bah hein? Oui. 613 puissance 600 000.
Bah oui.
Quel intérêt de faire ça,
ça veut dire que chaque neshama, elle a sa manière de faire la mitzvah.
C'est clair.
Ce qu'on va développer la semaine prochaine.
Ouais,
on est d'accord?
Parce que j'étais en train d'écouter ce qu'il m'a dit.
Voilà. Bon, on s'arrête ici. C'est très intéressant la semaine prochaine.
13, le chiffre 13.
Ouais.
Ah, c'est compliqué le.